Radio éphémère 89.1 MHz.
CPU, carré et petit utile.
Dans cette release de CPU, un lecteur à code barre, un jeu télévisé, des URL détournées et des tout intégrés pour Internet. Nos invités sont Olivier Azo, Nathalie Rosenberg, Sylvain Vallès et Solarus. L'équipe aujourd'hui d'Ascrit chez Gabriel. Ok, c'est parti. Bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui aimerais bien partager cette formidable page web à tes followers sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire tes autres camarades qui bullent au fond de la classe. Dans deux précédentes émissions de cette série sur l'adressage du web, j'ai tenté une explication de chaque élément constitutif d'une URL, l'Uniform Resource Locator. C'est fou, je crois avoir réussi à l'expliquer dans une émission de radio. Donc on l'a vu, l'URL est cette chaîne de caractères qui est en haut de la plupart des navigateurs, ou parfois en bas, et qui permet de retrouver un élément, un document, une ressource sur le vaste internet, en sachant à quel serveur parler, en quelle langue, dans quel recoin se cache le document, s'il faut ajouter des précisions et si éventuellement on veut qu'une partie très précise de ce document. Ça fait plein d'éléments accessoires implicites dans une URL, et on peut avoir une URL très concise. Par exemple, la référence de cette émission, https://cpu.pm/0226. Tout comme je peux avoir une référence extrêmement prolixe et absolument indictable à la radio. Et non, je ne donnerai pas d'exemple là maintenant. Pourtant, depuis le lancement de cette émission en 2015, nous accompagnons systématiquement chacune de nos releases d'une page de description et des pages pour chaque chronique avec leur texte intégral. Mais comment arriver à transmettre oralement à la radio une adresse de page web, par exemple pour un handicap de vue, surtout qu'on va changer d'URL à chaque émission? Bah oui, puisque chaque émission de CPU a la sienne. Et qu'en plus, la réelle adresse du site web de notre émission n'est pas cpu.pm, mais un sous-domaine d'un autre nom de domaine, parce qu'on a acheté cette adresse que bien plus tard, pour écrire une émission sur le nom de domaine, oui. Il y a aussi le problème de la transmission du support papier vers un navigateur web. Comment recopier facilement une URL qu'on lit sur un mur vers son ordinateur portable? Un problème quasi similaire avait déjà été presque résolu dans les années 1990, la programmation des enregistrements sur les magnétoscopes. À l'époque, t'avais que 6 chaînes de télévision, 7 à Toulouse parce qu'on payait assez cher l'eau du robinet pour avoir une chaîne locale en plus. Et comme à l'époque, on n'avait aucun service de replay et que les rediffusions étaient encore rares, si tu ne voulais absolument pas louper la diffusion de la version longue du Fanny Or Alexander de Ingmar Bergman, l'équivalent des frères Dardenne à l'époque, qui a le malheur de passer en même temps que le redoutable crunch entre le stade toulousain et celui de La Rochelle, ben t'avais que 3 choix. 1. Espérer que la VHS du film soit en location aux vidéos chic du coin. Et be kind, rewind. Vidéo chic, c'était un magasin de location de vidéos. Ça va être compliqué à expliquer. 2. Que le film repasse au cinéma ABC ou à l'Utopia, mais ça ne sera que la version cinéma qui ne dure que 3 heures. Ou 3. Que toi ou un camarade l'enregistre lors de sa diffusion sur la chaîne qu'on ne regarde que pour se donner un air intelligent.
La 7.
Sauf que programmer un magnétoscope révélait le rapport à la technologie du grand public, ou plutôt de comment étaient conçus les appareils sophistiqués qui allaient être vendus dans les grands magasins. Les études UX étaient franchement confidentielles. D'ailleurs, le terme « user experience » n'apparaîtra qu'en 1995. Qui a été confronté à un magnétoscope de l'époque sait combien on pouvait galérer à bien programmer un enregistrement. Faut dire qu'il y avait un concours entre fabricants pour mettre des boutons partout et ajouter un max de fonctions, sans forcément se poser la question si elles seront utilisées. Tant que leurs appareils se font acheter par des clients trop heureux d'avoir un bout de vaisseau spatial dans leur salon. Oui, j'en étais. On rigole pas derrière. Le constructeur électronique britannique Amstrad, qu'on a surtout connu dans les années 1980 pour leur micro 8 bits de la gamme CPC, Amstrad donc avait imaginé pour leur magnétoscope un gadget intéressant, un lecteur de code-barres. En gros, leur magnétoscope VCR 6100 avait une télécommande bien plus grosse. Et si votre magazine télé favori ajoutait les codes-barres à côté de la description des émissions, il suffisait de scanner le code-barre de l'émission qu'on souhaite enregistrer avec sa brique télécommande pour que les valeurs soient pré-remplies dans le formulaire à l'écran du magnétoscope. Ça n'a pas tant pris que ça, surtout que le système breveté n'était limité qu'à un seul fabricant. Mais l'idée était louable. Et peut-être te rappelle-t-elle quelque chose, le mobile tagging du QR code. Ben oui. Mais ça, on en a déjà parlé dans une autre émission sur pourquoi et comment, en vouloir faire entrer des données techniques par un public généraliste, une solution de logistique industrielle est devenue un outil de publicité tellement pratique qu'il en est devenu un objet pop. Et cette donnée était justement une URL. En fond du futur immédiat, tu vas découvrir que l'URL n'était pas prévue exclusivement pour les ordinateurs, mais aussi pour être partagée entre humains dans le monde physique, dans l'univers primordial et offline. On a donc vu que les éléments constitutifs d'une URL peuvent être longs, et on peut avoir une adresse internet particulièrement longue. Sinon, je vous renvoie à nos précédentes émissions sur le sujet. Mais dans l'immédiat, commençons par un...
En léger différé du Hackerspace où l'on enregistre uniquement pour le LOL, c'est Maker Quiz, encore une copie mal faite du jeu d'Alain Chabat sur Radio FMR. Avec...
Olivier Azou, Nathalie Rosenberg, Sylvain Valèze, Solarus, dans le rôle de Bardit, Gabriel, et celui qui a récolté sa série, Alechi, Chenajou, Alain Chabat, Dastrik. Nous invitons à la, nous accueillons bien que, et merci à nos invités qui sont là, nous faisons un show pour le fun, pour le boulot, car on aime tous l'humour.
Rappel des scores, Pixel, 3 points, Vecteur, 6 points. Je vous propose 3 menus pleins de vitamines et d'informations croustillantes, 5 fruits et légumes par jour non inclus. Il faudra manger sain demain. Menu 1, l'URL, cette chaîne de caractères que vous avez tous sur les navigateurs web, mais pas que. Menu 2, les différents dopants des diodes électroluminescentes, leur composition chimique, les niveaux d'extraction de leur couche électronique, leur fréquence de rayonnement et les dépôts de brevets afférents. Un menu qui n'a d'intérêt que si vous êtes co-titulaire du prix Nobel de physique 2014. Menu 3, organisation de l'édition 2024 du Futurapolis Planète à Toulouse avec les noms des différents prestataires captation, le budget catering, le plan de rotation des taxis et les différents numéros de téléphone des hôtels des conférenciers. Un menu qui n'a d'intérêt que si vous êtes organisateur des forums pour l'hebdomadaire Le Point, bien sûr.
What the fuck?
Bah, les URL
Alors, allons-y non, pour les URL. Quels sont les éléments obligatoires dans une URL ?
Le point.
Il n'y en a pas.
Non.
Mais bravo, effectivement, il n'y en a pas. Outre le slash, quels symboles délimiteurs peuvent séparer chaque répertoire dans le PAF ?
Les underscores.
Non.
Les anti-slash.
Des tirets.
Les points d'interrogation.
Alors en fait, on peut mettre n'importe. Alors point d'interrogation, non justement, mais on peut mettre n'importe. On peut mettre n'importe quoi, un backslash par exemple sur les serveurs Windows ou les deux points sur les serveurs Mac quand il y en avait. Tout dépend de comment le serveur web FTP SM, Samba est paramétré. Tant que c'est ni point d'interrogation, ni dièse, ni espace.
C'est des trucs interdits.
Ouais, oui. Quel symbole délimiteur apparaît 3 fois pour 3 éléments différents et où?
Le plus.
Non.
Le moins.
Le point.
Non.
Bah, le slash.
Non.
Non, le dièse, non.
Le deux points. Non.
Effectivement, ah oui, c'est le deux points, puisque on peut le retrouver dans le protocole d'abord, ensuite entre le nom de domaine et le numéro de port, et ensuite entre l'utilisateur et le mot de passe.
C'est pas un arrobas?
Non, ça, utilisateur et mot de passe, c'est un deux points. Utilisateur, deux points, mot de passe, arrobase, ouais. Et ensuite, effectivement, le nom de la machine. Et d'ailleurs, à propos du nom de la machine, si on adresse du serveur au lieu d'un nom de domaine, je mets un nombre entier qu'avec des chiffres, que se passe-t-il ?
Ça explose.
C'est bien tenté, mais pas...
alors... Je crois qu'en IPv4, il y a des valeurs implicites sur les quand il manque les trois premiers blocs. Donc ça va aller chercher genre un 127.0.0. Le truc.
Alors, non. Pas exactement. C'est en fait la transcription de l'IPv4, mais en version décimale. Donc pour 127.0.0.1, c'est 4,727,000,000, etc.
En fait, l'impression, c'est quand tu mets un point, donc quand tu as deux, trois valeurs,
Ça a complété avec les zéros au milieu.
D'accord.
Mais ça fait pas ça.
T'as perdu tous tes auditeurs.
Bah non, au contraire. Alors, comment mettre en identifiant de serveur une adresse IPv6 ?
Entrecrochet.
Exactement, c'est entrecrochet. Si je mets sur un lien sur un site avec mon adresse très exactement, //Toto, que va-t-il se passer ?
Ça explose.
Il prend le protocole et l'hôte et le port de la page courante.
Exactement. Et.
Et ça explose.
Voilà.
Non, on va sur le serveur avec exactement le même protocole et même numéro de port, effectivement.
J'ai rien compris, mais c'est pas grave.
Quel symbole délimiteur indique que la suite de l'URL ne concerne que le logiciel client ?
Est-ce que j'ai le droit d'appeler Stéphane Borsmeyer pour qu'il m'explique ?
Il va nous dire qu'on dit URI d'ailleurs et pas URL.
Je l'ai déjà eu en conche, s'il te plaît.
Tu peux répéter la question ?
Quel symbole délimiteur indique que la suite de l'URL ne concerne que le logiciel client ?
#dièse.
Exactement. En se limitant exclusivement au jeu de caractères ASCII expressif, donc entre les valeurs décimales 32 et 127 inclus, quel symbole non échappé est strictement interdit dans une URL ?
Un espace.
Exactement, c'est l'espace.
C'est câble ou insécable ?
L'espace tout court. Un sécable, c'est en dehors.
Personne t'entend crier, c'est ça ?
Exactement. Et enfin, en écartant le protocole data, quelle est la longueur maximale d'une URL ?
Je ne sais pas. 128.
Attends, je demande à ChatGPT.
Ah non, on avait dit non. La RFC 2616 donne une réponse qui tient d'une lapalissade. Le code de retour HTTP numéro 414, explicitement le statut URI too large. Et c'est tout. Tenez-vous bien. Il n'est défini nulle part dans un standard quelle est la longueur maximale d'une URL. Cette longueur change selon les années, les pratiques et les logiciels. Allez savoir quelle longueur limite les logiciels et équipements réseau entre votre code en perle et votre iPhone. En 2006, j'ai lu un papier passionnant qui donnait les longueurs maximales d'URL que pouvaient accepter certains logiciels. Ainsi, en modifiant les paramètres par défaut des serveurs web de l'époque, on pouvait rallonger la sauce des URL. Les serveurs web Apache, ultra populaires à ce moment-là, pouvaient monter jusqu'à 8000 caractères. I2S, le serveur web des Microsoft Windows professionnels, pouvait monter jusqu'à 16000 caractères. C'était en 2006. Actuellement, il peut en accepter jusqu'à 65000 caractères, et Apache allait bien au-delà de 100000 caractères de long, tout comme Nginx. Côté navigateur web, selon cette étude de 2006, les limites de Safari étaient de 80 000 octets, pour Opera de 190 000 octets, et pour Internet Explorer 6 de 2000 octets. À l'heure actuelle, les maxima sont de 65 000 octets sur Firefox, 80 000 pour Safari, et 2 mégaoctets, 2 millions d'octets pour Chrome, longueur maximale mesurée par un procédé empirique et drôle. Oui. La limite de 2K, 2000 octets, communément admise, était due à Internet Explorer 6. Dès la version suivante, Internet Explorer 7, qui est sorti en 2006, cette longueur fut plus grande. Bon, pour être honnête, je n'ai pas testé les longueurs des ancêtres des smartphones de l'époque. Les navigateurs WAP étaient très limités. Bref, cette limite est actuellement obsolète. Et pourtant... Souvent, j'entends encore régulièrement sur les forums de dev où la question de la limite de taille est posée, cette réponse des 2000 octets. Je rappelle qu'on a enterré Internet Explorer en début d'année 2021, sans fleurs ni couronne, au fond d'une forêt de l'Oregon, et vous devriez vous méfier, alors rappeler les limites de MSIE, les développeurs de Microsoft Edge deviennent chatouilleux et ont le coup de pelle facile. Néanmoins, il y a des interlocuteurs entre votre navigateur web et un serveur web. Mais depuis qu'on est passé à des communications chiffrées de bout en bout, la seule limite qui importe pour ces intermédiaires concerne surtout la longueur maximale du nom de domaine. Point inclus et punicode déchiffré, je vais y venir en punicode, la longueur maximale est de 253 caractères, dont 63 caractères maximum par label, c'est-à-dire le mot entre chaque point dans un nom de domaine. Bon, ceci dit, est-ce que des URL aussi longues sont pratiques ? Ça dépend. Cela va très vite. Il suffit qu'on vous donne un identifiant utilisateur avant le nom de domaine du serveur. On est un chemin un peu long, beaucoup d'atomes dans la query, par exemple pour faire du tracking d'audience, et des paramètres de documents dans le hash. Ces longueurs d'adresse peu usuelles, j'en ai expérimenté une récemment par pur hasard. Alors que je travaillais dans une agence sur un site web pour en rafraîchir la maquette, j'ai été par erreur mise à la porte d'Adobe XD. Le service d'Adobe m'a alors envoyé sur la page de connexion avec une URL très longue. 5664 caractères. C'est presque un record pour moi. Mais ce qui était passionnant à mes yeux, c'est ce qui faisait la longueur de cette URL. J'ai relevé dans la query 11 références à des noms de domaines commençant explicitement par https://. Là, il y a comme un gros warning qui s'allume dans la partie de ton cortex qui s'occupe de la sécurité informatique. Pourquoi mettre ces 11 URL avec des références au projet, à l'espace client et à la page de connexion? Genre, tu pouvais pas utiliser qu'un cookie de session pour t'en souvenir. J'imagine qu'on peut s'amuser à forger des liens dans les emails, et du coup, on peut sûrement hameçonner des clients d'Adobe depuis leur propre serveur. On va bientôt voir qu'Adobe est très loin de respecter les bonnes pratiques en conception d'URL, et même de pages web. Ça serait bien d'éviter de mettre trop de choses, de ne pas oublier d'être concis dans vos URL. Pas d'être hyper concis au point d'être lisible. N'oubliez pas non plus qu'une URL doit aussi pouvoir être comprise par un humain et qu'il sera toujours tenté de bricoler un peu avec. À ses risques et périls. Je suis sûr que le Shift Project ou l'ADEME vont arriver à nous prouver de manière erronée que les URL longs que vous appelez dans la journée créent plus de CO2 que la combustion d'une cigarette. Mais blague à part, sérieusement, entre nous. Comme pour toutes les parties facultatives des URL, vérifiez si vous pouvez réduire sans impacter les ressources, nettoyez aussi les query tracking, c'est une bête question d'hygiène. KISS, keep it simple stupid. Allez à l'essentiel.
Much too long, I feel it coming on. The feeling is getting strong. It's been much too long, I feel it coming on. The feeling's in my bones. Too long, can you feel? Can you feel it? Too long.
Daft Punk featuring Chili Gonzalez, Too Long, Gonzalez version.
Off my shoulder, I'm taking all control. My mind is set so free. I'm where I want to be to get the best of me.
éphémère 89.1 électrique.
Si on doit communiquer sur une URL, il vaut mieux qu'elle ne soit pas trop longue. Pour de multiples raisons, mais surtout parce qu'elles sont manipulées par des humains et qu'on n'est pas toujours sûr par quels canaux ces URL vont être diffusées. Et comme on se retrouve parfois avec des URL super longues, on a commencé à utiliser dans le web des sites réducteurs d'URL. Une légende tenace veut faire croire qu'elles ont été créées avec Twitter. Mais non, leur origine remonte à avant feu le réseau social. Ces services existent depuis 2 décennies, très exactement depuis 2002. Pour en citer quelques-unes par ordre d'arrivée, tinyurl.com, bit.ly, g.co. Oui, plus on a avancé, plus les noms de domaine des raccourcisseurs d'URL sont raccourcis. Et 4 caractères, le minimum absolu. Mais au fait, pourquoi on en est venu à créer de tels services? Pour réduire la taille d'une URL à transmettre. Par exemple, pour générer un QR code. Plus l'URL est petit, plus le QR code est concis, donc très facilement lu. Cas plus rare, pour réduire l'URL quand on doit le dire dans une publicité ou le dicter. C'est le cas pour notre émission de radio actuelle. Oui, CPU sur Radio FMR utilise des techniques de pubar. Chacune de nos releases est accessible via cpu.pm/ suivi du numéro de l'émission. D'ailleurs, ce nom de domaine que nous opérons ne nous sert qu'à ça, même pas hébergé pour l'instant. On le fait aussi parce que consulter les liens sortants sont impossibles sur certains sites dits contributifs comme Apple Podcast, Spotify ou Instagram.
Coucou!
Oui, il y a des sites qui n'aiment pas trop voir leurs utilisateurs partir vers d'autres sites. Il reste donc assez curieux qu'à recopier une URL, et recopier une URL en 8 caractères est un petit peu plus facile qu'une URL de 80 caractères. Et enfin, dernière raison quasi inavouable, pour camoufler du spamming ou des logiciels malveillants. La technique est simple. Le nom du domaine du raccourcisseur d'URL n'indique rien, le chemin après non plus, et si vous suivez le lien, c'est la mauvaise surprise. Mais comme en 20 années de pratique, certains s'en méfient, on commence à voir des stratégies de masquage par raccourcisseur et redirection d'URL nettement plus élaborées. Donc, revenons aux fondamentaux. Si vous devez utiliser un service de réduction d'URL au lieu de gérer le vôtre, n'oubliez pas ceci. Vous vous reposez sur un service que vous ne contrôlez pas, qui sûrement traque l'audience et fait du reciblage publicitaire. Avec le RGPD, c'est un risque juridique. Uh-oh. Et vous n'êtes pas à l'abri d'un arrêt de ce service, d'un changement de propriétaire ou de mission, ce qui peut entraîner un détournement de l'URL que vous communiquez en toute bonne foi vers une autre adresse qui peut être maligne. Oui, si j'en parle, c'est que je suis persuadé que des gens nous écoutent ou nous lisent et ne s'en doutaient pas. Si vous installez et opérez un service de raccourci d'URL comme cut.it, faites très attention à ce que n'importe qui ne puisse pas créer des alias, car sinon, c'est votre responsabilité si votre service raccourcisseur de liens sert à des tentatives de piratage. Donc, vous serez vous aussi ciblé, comme les visiteurs innocents. Le mieux reste d'être concis dans les URL pour ne pas avoir à les raccourcir. Mais soyons honnêtes, c'est plus facile à dire qu'à faire. Regardez les URL des chroniques et interviews de notre émission sur cpu.pm. Vous allez vous moquer de nous, à raison. Revenons sur le sujet des noms de domaine et de comment ils peuvent être sujets de détournement. Dans les années 2000, l'une des premières méthodes de phishing qu'on voyait beaucoup, d'escroquerie par déguisement de site web, était de réserver un nom de domaine se terminant en .co, .co. Le TLD, Top Level Domain, désignant la Colombie, ayant l'avantage d'être très proche du .com, des noms de domaine de l'immense majorité des entreprises sérieuses. Ce TLD ne demandait quasiment pas de formalité pour y réserver un nom de domaine. Inutile de vous dire qu'il avait vite acquis une réputation sulfureuse. Le problème sur les erreurs de frappe de nom de domaine a toujours existé. Le typo squatting est un cas classique de l'exploitation de l'erreur humaine sur Internet. Il existe des outils de fuzzing pour générer des noms de domaine et vérifier leur disponibilité effective chez les registrars. D'ailleurs, le projet URL Crazy, qui a d'abord été créé à des fins défensives, est super intéressant car partant d'un nom de domaine que vous proposez, il explique chacune des variations générées sur les inversions de lettres, l'erreur de frappe de touches adjacentes au clavier, même AZERTY, et les TLD trop consignants. Et maintenant, en maquillage de noms de domaine, passons un niveau au-dessus. Jusqu'en 2004, les noms de domaine n'étaient qu'en ASCII et ne pouvaient utiliser que 26 lettres, 10 chiffres et le trait d'union. Et c'est tout. En fait, on pouvait y mettre bien plus de caractères différents, mais on se limitait. Internet étant une fusion de différents types de réseaux, on n'avait aucune garantie que les vieux softs qui le font tourner sur certains points centraux ne bloquent pas les requêtes incompréhensibles pour eux. Cette limitation du nombre de lettres utilisables causa un problème pour les langues non roumaines. Par exemple, l'arabe, l'hébreu, les langues slaves, les chinoises, le japonais, l'éthiopien, et j'en passe. Et c'est ce qui fait qu'encore aujourd'hui, on a des accusations qu'Internet est trop occidental ou centré. Et en soit, ses détracteurs n'avaient pas tort. Depuis, on a inventé les IDN, International Domain Name, j'en parlerai plus tard. J'avais parlé du Japon qui avait détourné un outil logistique, le QR code, pour rentrer des adresses web dans des feature phones. Mais avant ça, les publicitaires ont utilisé une toute autre stratégie. Au Japon, depuis la fin des années 90 et encore de nos jours, il n'est pas rare de voir dans les publicités télé et radio la mention « Allez sur Yahoo et cherchez le nom de notre marque !» Ça marche car on peut alors rentrer le nom d'une marque en écriture japonaise comme les kana ou les kanji. Et sans paniquer à l'idée d'écrire le nom de sa marque Nippon favorite dans ses romanji de gaijin mal léchés, pardon, en lettres romanes qui ne sont pas dans votre culture. Et surtout parce que le raccourci vers le moteur de recherche de Yahoo Japan était présent sur tous les téléphones capables d'aller sur Internet. Oui, à la fin des années 90, à une époque où en France, on n'était pas sûr de pouvoir envoyer un SMS d'un opérateur mobile vers un autre. Eh ben au Japon, ils allaient déjà sur le web. Cette stratégie d'évitement d'utiliser un moteur de recherche plutôt que la barre d'URL a marché et elle reste extrêmement populaire sur l'archipel nippon. Et ça a marché jusqu'à ce que les moteurs de recherche se mettent à confondre visuellement les résultats naturels d'une recherche avec les espaces publicitaires placés en fonction de mots-clés. C'était avant l'arrivée de Chrome en 2009 où Google a fusionné barre d'URL et barre de recherche dans son navigateur web. Okay. c'est Konada, détournement à base de basse. Vous écoutez Radio FMR, le site web de la radio est radio-fmr.net.
Can I play a guitar? Guitar.
Rhythm and melody, rhythm and melody, rhythm and melody. Revenons au nom de domaine. Je le rappelle, à cause d'une infrastructure réseau très hétéroclite, la pratique dans les années 2000 est de limiter les noms de domaine aux 26 lettres de l'alphabet latin, les 10 chiffres arabes et le trait d'union. Il faut avouer que cette contrainte rend cette information plus technique qu'au grand public. Elle pose des soucis quand l'accent peut avoir une importance qui devient rédhibitoire quand votre langue utilise un tout autre alphabet, comme le chinois, l'arabe ou le grec. On parle de la population de pays entiers qui n'est pas habituée à un alphabet aussi exotique que celui de l'anglais. Alors comment sortir d'un jeu de caractères ASCII ultra restreint et ajouter bien plus de caractères différents sans risquer de péter l'internet pour le simple fait d'entrer le nom d'un site web afin de le consulter? Les publicitaires japonais ont esquivé le problème en 2004 en hackant un outil de logistique, le QR code. Je l'ai expliqué en une heure à la radio. Vous pouvez retrouver notre émission sur le sujet à l'adresse cpu.pm/193. Oui, je suis lourd sur mon autopromo, mais maintenant vous voyez l'intérêt d'un bon raccourcisseur d'URL. Vous avez eu le temps de noter l'adresse cpu.pm/193. Et en 2004, en dehors du Japon, les téléphones et ordinateurs n'avaient pas de lecteur QR code. Alors comment qu'a-t-on fait? Eh bien, heureusement, il y a eu l'idée du Punicode. En 2003, Adam Costello, de l'Université de Berkeley, va proposer une solution d'extension permettant d'encoder dans les limites d'un nom de domaine des alphabets internationaux avec un algorithme court, simple et une implémentation minimale. La solution est parfaitement rétrocompatible et il suffit d'implémenter l'algorithme dans la section de nom de domaine d'un interpréteur d'URL pour décoder le nom de domaine technique qui reste dans un alphabet romain dans les couches basses du réseau, donc le routage entre le client et le serveur. Le Punicode ne concerne que les noms de domaine. Pour les autres parties d'une URL, on a d'autres mécanismes pour employer l'Unicode. Le Punicode comble une demande, même pour les latins. Imaginez que vous êtes une chaîne de magasins vestimentaires pour enfants, une marque qui s'appelle 10 Años, 10 ans. Ben, avant Punicode, votre nom de domaine aurait été 10 Años, ce qui traduit de l'espagnol veut dire 10 anus. Ouais. Oui, vous imaginez les dégâts terribles pour votre marque. Du coup, vous avez beau retourner dans tous les sens, sans votre tilde sur le N, vous êtes handicapé. Votre marque ne peut pas avoir son nom de domaine sur Internet. Vous ne pouvez communiquer internationalement ou même être à la page web forcément. Ah ! Le Punicode est un habile bricolage pour mettre des centaines de milliers de caractères du plan Unicode dans l'espace d'un nom de domaine restreint à 37 symboles possibles. Si un caractère n'entre pas dans ce jeu hyper restreint, le navigateur web va encoder le nom de domaine en Punicode et demander au DNS si un tel nom existe. On reconnaît un nom de domaine en ASCII qu'il doit être décodé en Punicode par son préfixe xn-. Si on prend notre exemple, diesanios.com donnerait xn-diezaos-8za.com. Un nom de domaine encodé en Punicode s'appelle un IDN, Internationalized Domain Name, un nom de domaine internationalisé. Car un IDN est une réelle volonté d'inclusion et de décentraliser Internet de l'Occident. Ou des envies bassement marketing des registrars, hein. Ouais, soyons objectifs. Le pognon avant tout. Grâce au Punicode, des registrars peuvent proposer des noms de domaine dans n'importe quelle langue sans faire planter des logiciels pas mis à jour depuis 30 ans. Ou même faire honneur à des villes comme Besançon.
Ouais, parce que sans la CDI, Besançon, c'est un peu con.
Merci Régis, merci pour cette constatation. Mais hélas, tout n'est pas parfait. On a vite découvert que le Punicode créait de nouvelles difficultés. Sur les IDN et le mécanisme Punicode, de nouveaux problèmes sont apparus. Certains alphabets sont proches. Par exemple, vous avez plein de lettres qui ressemblent visuellement à des lettres latines mais qui sont des symboles différents dans une logique informatique. Cette confusion optique s'appelle un homoglyphe. Et bien utilisée, une lettre homoglyphe rapporte mieux qu'au Scrabble, surtout si vous êtes un escroc. Encore tout récemment, en 2021, le navigateur web Brave a été victime de tentatives de faux. Un groupe d'escrocs, ou des espions cyber, on ne sait pas, a réservé le nom de domaine brave.com. Sauf que le A était écrit en alphabet cyrillique. Donc le rendu punicode, ressemblant dans la plupart des polices de caractère au A latin, pouvait induire en erreur. Ici, le nom de domaine faisandé menait un site proposant au téléchargement un logiciel ressemblant à Brave, mais bourré de spyware et autres dégueulasseries. Et les homoglyphes peuvent se retrouver même entre les lettres de notre alphabet. En 2024, un malandrin a déposé le nom de domaine couv.fr, Q-O-U-V.fr, qui affiché en souligné dans un email sous Outlook, donne un nom de domaine qui ressemble à un .gouv.fr à s'y méprendre. Je vous laisse deviner ce qu'on trouvait derrière ce nom de domaine, qui a heureusement été suspendu assez vite. Mais revenons à nos IDN. En moins de 2 ans, Punicode est passé d'une excellente intention à un énorme problème de sécurité qui se conjugue parfaitement à la plus grosse faille informatique existante, l'humain entre la chaise et le clavier, PEPCAC. Devant les tentatives récurrentes de noms frauduleux, certains gestionnaires de TLD, ceux qui louent les noms de domaine, limitent les caractères Unicode réservables à leur niveau. Mais cette initiative d'opérateurs registraires sérieux n'est hélas pas suivie par tous les gestionnaires de noms de domaine. Les navigateurs web, eux, se sont mis à montrer le Punicode natif, une mesure qui marche que pour ceux qui lisent les langues latines, et qui finalement va à rebours de ce que le Punicode était censé résoudre, c'est-à-dire rendre le nom de domaine simple et clair pour tous ceux qui ne lisent pas l'alphabet occidental. Mais le jeu de caractères Unicode est tellement compliqué qu'il y a régulièrement des mises à jour. Bah oui, elles bougent les lettres. Et malheureusement, ces mises à jour-là ne sont pas suivies en temps et en heure par certains registraires. Si vous voulez commencer une bagarre dans un salon de professionnels de cybersécurité, parlez du support IDNA 2008 et Unicode 12. Mais si encore les gens faisaient attention à ce qu'il y a écrit dans la barre d'URL de leur navigateur web. Il y a aussi le problème des emails ou des documents bureautiques, où le caractère Unicode est montré sans alerter sur un possible homoglyphe. Et où en plus le malandrin a le choix de la police de caractère utilisée pour afficher son adresse piégée. Un clic. Un simple clic. Et l'utilisateur n'aura jamais la chance de se rendre compte à temps qu'il n'a pas atterri exactement à l'adresse web qu'il attendait. Alors faut-il retirer Punicode et les IDN ? Surtout pas. Ça serait aliéner la technologie avec les 3/4 de l'humanité. Il faut arriver à écarter les opérateurs négligents. Et c'est très compliqué. Punicode partait d'une bonne idée. Le diable se cachait dans son implémentation. Avec la popularisation d'Internet et du web, l'URL est passée d'une information technique à un détail quasi insignifiant tous les jours. Et c'est cette apparente insignifiance qui a permis des abus, allant des commerçants jaloux de marques mieux placées qu'eux, à la contrefaçon, au vol de données, jusqu'à l'espionnage économique ou étatique. L'URL est une technologie ouverte à tous, sujette à de nombreux hacks, et hélas, combinée avec l'exploitation psychologique, elle peut induire à des usages malicieux, donc à des escroqueries. Entre le cybersquatting, le déchiffrement difficile pour un novice d'éléments techniques, des homoglyphes du Punicode, les possibilités de piéger sont très nombreuses. Vous l'avez peut-être compris pourquoi il n'est pas inutile de comprendre comment fonctionne une URL, parce que des personnes mal intentionnées vont utiliser cette connaissance contre vous. Les détournements d'URL pour arnaque profitent parfois de circonstances bien plus simples. Et là, on ne peut que regarder les utilisateurs d'un air navré. Et avoir de la compassion. En toute honnêteté, nous devons reconnaître que parfois, on aurait pu se faire avoir, marcher dedans si nous n'avions pas fait plus attention. Et c'est là que connaître comment fonctionne chaque élément d'une URL permet de découvrir comment et pourquoi on peut se faire berner, d'où l'intérêt d'informer sur ce qu'est qu'une URL, son usage et ses astuces cachées. Car si nous arrivons à faire découvrir à des personnes profanes quelques éléments techniques de l'URL et à les faire comprendre, peut-être seront-elles suffisamment avisées pour ne pas retomber dans un piège qui peut sembler tellement grossier pour nous, les gens supposés avertis. Par exemple, l'une des arnaques récentes via une URL utilise la déclaration d'utilisateur de l'autorité, qui se place avant le nom de domaine. Vous savez, c'est de la forme https://utilisateur@nom-de-domaine. Donc, le mot utilisateur. Vous n'imaginez pas le nombre de gens qui s'arrêtent à l'arobase dès qu'ils croient reconnaître un nom de domaine familier comme sncf.fr ou impots.gouv.fr. Ils cliquent dessus et se retrouvent sans s'en rendre compte sur un site web qui a le goût d'eux, mais qui n'est absolument pas ce qu'il prétend être. Un piège où des personnes leurrées vont en bonne conscience donner leur numéro de carte bancaire. Et là, c'est jackpot pour les escrocs. Un hameçonnage aux coordonnées personnelles ou bancaires en toute quiétude. Comme l'a révélé Sébastien Gavois du site Next fin 2023, Firefox est le seul navigateur à demander confirmation avant de suivre effectivement l'URL en cas de présence de la notion d'utilisateur. Mais cette option ne marche que si le site n'a effectivement pas besoin d'un identifiant. Donc très rapidement, cette protection va être contournée et le navigateur Firefox n'est utilisé que par moins de 5% des internautes. Certains spécialistes disent qu'une des vérifications à faire est le certificat signé du nom de domaine, ce qui permet de chiffrer le protocole en HTTPS. Après test, personne, je dis bien, personne dans les milieux pourtant avertis n'y prête attention. Car là aussi, la déclaration d'identité n'est pas vraiment vérifiée et mille fois bidonnable. Et vu que les informations n'y sont pas toujours claires pour le profane, le dit profane va-t-il le faire pour chaque site ? D'autres proposent des solutions, à base de blockchain ou encore d'une vérification par IA, les bons vieux filtres heuristiques des antivirus. Mais soit l'information est trop complexe pour un simple utilisateur, soit il en est vite saturé, soit les faux positifs ruinent l'intention, soit le manque de sérieux de certains opérateurs ruine la fiabilité de l'ensemble de la chaîne. Et puis les pratiques des grandes entreprises n'aident pas. Regardez les différents noms de domaine utilisés par une grande banque française, kit de paiement inclus. C'est autant la foire que les noms de domaine des administrations françaises. Et on a trop. Il n'y a aucune cohérence, c'est dispersé façon puzzle sur tous leurs prestataires et en utilisant des outils techniques comme Whois sur le nom de domaine, on n'est pas plus avancé. Et dès qu'il y a du flou, il devient trop facile de leurrer quelqu'un. Spellbound Mistake, Six Seasons, The Benches and the Bravery, extrait de la compilation de mashup Halloween Bounty 11. éphémère. Nous avons parlé de l'URL, de son usage, de comment on communique avec, de ses limites et de comment on peut la détourner. Maintenant, nous allons parler de comment vous la voyez quotidiennement, de comment vous l'utilisez dans votre navigateur web. Tout se passe dans un champ texte, dans la barre d'adresse, aussi dite d'URL. La fameuse. Ah. Oui, je sais, j'ai pris mon temps. Elle est ici, en haut du navigateur web, ou parfois en bas, sur les smartphones à grands écrans, et elle vous indique les coordonnées de la page web que vous êtes en train de consulter. Si vous cliquez dessus, vous pouvez éditer cette URL, et en validant, vous vous retrouvez une nouvelle adresse, ou une erreur 404, ou un timeout, parce qu'il n'y a aucun serveur qui résout cette adresse. Et en 2000, se retrouver devant une page d'erreur cryptique d'un navigateur web, comme quoi l'URL n'a pas pu être résolue, pour un novice, c'était plutôt punitif. Ça peut sembler dingue, mais dans Netscape 4, version sortie en 1998, le splash screen, l'écran d'accueil et les bookmarks, aucun ne liait vers un moteur de recherche. Connais l'URL toi-même, ou sinon, point de salut. Durant la décennie 2000, dans un mouvement ouvert par Opera, les navigateurs web commencent à placer un autre champ texte, un champ de recherche. Pour Opera, ça sera une barre sous la barre d'URL. Pour Internet Explorer, c'est un volet sur le côté de la page. Et les autres, à partir de Firefox, mettront ce champ sur la même ligne que la barre d'URL, mais à sa droite. Dans ce champ texte, on entre les mots-clés d'une requête pour avoir les résultats d'un moteur de recherche qui a été présélectionné par l'éditeur du navigateur web. Et, oui, petit détail. Quand on parle alors de navigateur web, c'était l'époque des gros logiciels intégrés à tout faire. Des engins lourds, des monstres bateaux, qui font beaucoup trop de choses et communiquent mal avec les autres logiciels. Opera et Netscape mettaient parfois une minute à démarrer, là où Internet Explorer sous Windows en mettait moins de 10 secondes. L'Atheon, comme on disait à l'époque. Car Microsoft est à ce moment-là en train de gagner la première guerre des navigateurs web, non seulement en installant Internet Explorer dans Windows et l'y mettre dans une position privilégiée depuis Windows 98, mais en plus en ayant éclaté les fonctionnalités des autres intégrées web. Outlook Express pour les emails, Internet Explorer pour surfer sur le web, FrontPage pour créer des pages web. Oui, on trouvait ça mieux fichu. Honte à moi. En 2004, un projet de nouveau navigateur web va un peu revoir tout ça du côté de Netscape. Le projet Firebird, qui deviendra Firefox, part du moteur de rendu de Netscape, le fameux Mozilla, mais s'allège du client d'email, du client de newsgroup et de l'éditeur de page web. Firefox sabre l'interface de Netscape des mille et une fonctions qu'il alourdissait en ne gardant que le moteur de rendu web et avec une nouvelle interface minimale qui s'appelle Chrome. Si, si, Chrome désigne un élément spécifique de Firefox, et ceci avant que Google ne s'empare commercialement du nom. Ce jeune navigateur Firefox va repartir dans la simplicité, le Lean Design, imitant inconsciemment l'Internet Explorer du grand méchant Microsoft qui tuait Netscape. Et en tant que logiciel gratuit, libre et open source, Firefox ne bénéficie pas d'un soutien d'un actionnaire sponsor aux grandes poches comme Netscape ou Microsoft, mais il profite d'une opportunité, celui d'un financement par placement. En 2004, on est dans une très forte concurrence entre les moteurs de recherche, comme Yahoo, AltaVista, Lycos, MSN Search et Google. Les moteurs de recherche vont désormais payer pour être LE moteur de recherche par défaut du navigateur web, en plus de déjà payer pour être LA page de démarrage du navigateur et avoir son icône de raccourci sur le bureau de l'ordinateur. Car avec le web, le placement produit sur l'écran de base d'un ordinateur était un business très lucratif depuis les années 1990. AOL, CompuServe et autres fournisseurs d'accès Internet se battaient à grands coups de chéquier pour que leurs icônes soient présentes sur le bureau à peine déballé d'un ordinateur neuf, afin d'être le FAI auquel va s'abonner un aspirant internaute. Et cette folie va être un des moteurs de la crise financière d'Internet en 2001. C'est avec exactement le même objectif, se placer numéro 1 des usages dans sa catégorie, que les moteurs de recherche essaient de se placer au plus près du navigateur web, donc directement dedans. Entre 1995 et 2007, cela se réalisait dans Netscape et Internet Explorer par une barre horizontale sous la barre d'URL. À une époque où la résolution verticale moyenne des écrans était de 800 pixels de haut, ces barres d'extension de 26 pixels de haut bouffaient très rapidement la surface de lecture. Firefox va cantonner le placement du moteur de recherche sponsor à ce qui est vraiment utilisé par le surfeur moyen.
Salut, ça farte. Aujourd'hui, pour être fun et bigarré, frais et bien formé, il te faut savoir casser.
Ils vont casser ces barres garder l'essentiel, le champ texte avec l'icône loupe. Plus élégant, mieux intégré, moins lourd. Firefox laissera une possibilité à l'utilisateur de changer le moteur de recherche, voire d'en ajouter. C'est un standard méconnu qui existe toujours, lancé par Amazon, et A9, devenu Open Search. D'ailleurs, si vous avez encore dans Firefox la barre de recherche distincte de la barre d'URL, allez sur notre site cpu.pm. Vous verrez que l'icône de la loupe va changer, et si vous cliquez dessus, votre navigateur web va vous proposer d'ajouter en moteur de recherche notre site web. C'est une fonction qui est super utile pour notre équipe, pour retrouver très vite une vieille chronique. Et en tant que dev, j'ai plein de moteurs de recherche spécialisés vers des sites de langage, de programmation, de spécifications techniques, et j'en passe. Ça me fait gagner un temps fou. En 2008, Firefox a retravaillé la barre d'URL pour qu'elle aide l'utilisateur qui n'est pas très technique. On va y retrouver à la fois les suggestions de l'historique, les marque-pages, mais surtout les suggestions des moteurs de recherche. Il s'agit de l'intégration dans le code principal d'une extension créée dans sa communauté, la Awesome Bar. La même année, Google lance son navigateur web, Google Chrome. Il est le premier navigateur web à ne pas avoir d'un côté le concept de barre d'URL et de l'autre le champ de recherche, mais au contraire, les fusionner dans ce qu'ils appellent l'Omnibox. Et le moteur de recherche intégré dans le navigateur Chrome est... Oh, je vous donne dans le mille, Google. Décidément, la nature est bien faite. Sur la version écrite de cette chronique radio, je vous renvoie sur une excellente bande dessinée de Scott McCloud, commissionnée par Google, qui raconte les coulisses du projet Chrome. Cette BD explique très bien l'ensemble des démarches lors de la construction de ce navigateur. Point de vue UX, c'est-à-dire expérience utilisateur et donc grand public, cette fusion dans l'Omnibox ou la Awesome Bar n'est pas stupide. Elle induit moins de confusion et d'incompréhension pour l'utilisateur moyen. Si jamais l'URL a été mal entrée par l'utilisateur, le moteur de recherche prend le relais et suggère des destinations probablement les meilleures. La date de cette innovation n'est pas anodine. 2 ans après le lancement de l'iPhone, Google commence à revoir complètement l'interface du système d'exploitation mobile Android qu'ils viennent de racheter et à partir vers des écrans tactiles sans clavier physique. On parle alors de conception web en mobile first, au moins dans les conférences techniques de qualité, même si en 2010, moins de 10% du trafic web va vers des smartphones. Donc, réussir le concept d'URL et de champ de recherche en un seul, c'est un très gain net de place, donc de lisibilité. Mais si on pouvait au moins choisir un autre moteur de recherche par défaut que Google, c'est tout à fait faisable et pas si compliqué et plutôt bien expliqué par Google. Sauf qu'en 2010, l'utilisateur aurait peut-être aimé avoir le choix de ce moteur de recherche à l'installation, au premier démarrage de son smartphone. Comme dit David Catu de Microsoft quand nous l'avons interviewé sur le navigateur Edge renvoyant sur Bing, il nous a dit « Ben quoi, on est chez nous ». Depuis 2009, une confusion s'est installée dans l'esprit des utilisateurs grand public. Le navigateur web est devenu le moteur de recherche, et des fois c'est dans la manière même de s'exprimer. En langue bosniaque, par exemple, les expressions « navigateur web » et « moteur de recherche » se traduisent par exactement le même mot. Comme je ne parle pas le bosniaque, je l'ai essayé avec un traducteur automatique et effectivement le mot français
« navigateur web »
passé en bosniaque vous donne
« pretraživač »
et le mot bosniaque retraduit en français, on obtient
« moteur de recherche ».
Je l'ai essayé avec Google Translate, c'est assez piquant. Honnêtement, au début, je n'avais aucun avis contre la confusion des deux fonctions dans un champ texte unique, même si je maintiens les deux séparés sur mon navigateur. Surtout qu'on a toujours un soupçon que toute URL valide entrée est envoyée à un moteur de recherche, donc un outil de profilage commercial. Et puis, j'ai vu Google faire n'importe quoi. C'était CPU, le programme Carré Petit Utile de Radio FMR. Dans la série Webmaster, release EX226, l'adresse était trop longue. Cette release, l'équipe est composée de Daskritch, Chief Locating Officer, Gabriel, Chief Decoding Officer, Stéphane Borsmeyer pour la relecture attentive de certains chapitres. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. Nous remercions le Tétalab pour le plateau et Olivier Azot, Nathalie Rosenberg, Sylvain Vallès ainsi que Solarus pour avoir joué le quiz. L'intégralité du programme, des extraits et nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pn/226. Vous pouvez commenter et partager, les chroniques et interviews sont en licence libre, c'est donc là pour ça. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Si vous nous écoutez sur Radio FMR le jeudi en direct analogique ou numérique, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé. Monique, ne vois-tu rien venir ? Sinon le hashtag qui poudroie, le hashtag qui verdoie, etc. FMR à Toulouse sur 89.1 en FM, en DAB+, et en stream sur internet, radio-fmr.net.